Slalom entre légèreté et gravité, popu et pointu, masculin et féminin. 30 ans qu'il explore les genres, les villes et les nuits sans sommeil. 30 ans qu'il cultive l'esprit de bande, les doubles sens et les fausses pistes. Marie le grave au groove, le soufre au sucre, toujours en quête de l'autre avec un grand A, mais pour mieux s'en affranchir. 30 ans qu'il exorcise ses fêlures, ses amours, ses démons, sans jamais trébucher, lasser, vieillir. 30 ans qu'il a le génie des tubes, sans trahir sa ligne, ni se répéter. 30 ans donc qu'il accompagne nos vies bebop, pieds nus sous la lune. 30 ans que l'on fredonne ses chansons pop aux airs faussement désinvoltes, écrites d'un coup de stylo, trempées dans le quotidien, lumière ou ténèbres, c'est selon, comme un cri qui s'échappe mais qui dessine, si l'on prête l'oreille, la topographie de son propre own private DAO. Ouvrez vos écoutilles, la pop star est rare.
France Inter, Daphné Roulier, la vie est un jeu.
Waouh.
Étienne DAO, bonsoir.
Bonsoir Daphné.
Et merci d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes partout en cette fin d'année. Dans les bacs, avec un album de reprise, L'Homme qui marche, en librairie, avec L'Homme qui chante, une BD signée Alfred et David Chauvel aux éditions d'Arco, qui est le making-of des chansons de l'innocence, jusqu'à la tournée Disco Noir, et sur Arte, le mois dernier, avec un documentaire sacrément bien gaulé, et suffisamment remarquable pour le signaler, d'Antoine Carlier, qui retrace vos 30 ans de carrière. On frise l'embaumement, la béatification, ça vous fait marrer. Comment votre pudeur naturelle s'accommode de tout cela?
C'est particulier, c'est un moment très doux en même temps, parce que c'est comme un moment de reconnaissance, mais c'est pas une reconnaissance professionnelle, c'est comme si c'était une reconnaissance personnelle. C'est ça qui me touche beaucoup en fait.
Mais ça fait longtemps que l'on vous reconnaît personnellement.
Mais ça fait peut-être pas longtemps que je m'en aperçois.
C'est ça, oui. Pas longtemps que vous l'acceptez en fait, que vous l'entendez.
Oui, peut-être c'est ça.
Votre rapport au succès s'est-il pacifié avec le temps? Vous le tutoyez avec plus de détachement aujourd'hui, notamment depuis que vous avez vu la mort en face?
Je crois que je suis un peu moins dans le contrôle. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis parti en tournée. Les tournées, c'est toujours particulier. On est vraiment le capitaine du navire. Et cette fois-ci, j'étais beaucoup plus cool avec tout le monde. Et tout le monde était donc beaucoup plus cool, beaucoup plus content de partir en tournée avec moi. De ne pas partir avec un psychopathe qui est toujours dans le contrôle. Donc je pense que peut-être que ça a arrangé ça. Ouais. Pas mal déjà.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Vous avez été l'un des premiers, Étienne DAO, sinon le tout premier, à fusionner la chanson d'ici avec les rythmes de là-bas, de la pop anglaise. Mais j'aimerais d'abord revenir sur quelques balises déterminantes. Sur votre trajectoire, Étienne DAO, on trouve une enfance à Oran, le jukebox du Cap Falcon, du soleil et des cadavres, un père qui se débine, la guerre d'Algérie, un retour en France dans la foulée des accords d'Évian, des femmes fortes, une cité HLM à Rennes, le rock comme tuteur, la Motown, Syd Barrett, le Velvet Underground, Nico, mais aussi le Marquis de Sade, les Stinky Toys, Taxi Girl, les Nus, la scène du rock rennais, un brouet d'influences dont Françoise Hardy, Londres, le Swinging London, la rencontre avec Jacques No et Elie Medeiros, un premier album mythomane, passé inaperçu avant une avalanche de tubes, le sexe, la drogue, une rumeur nauséabonde, la psychanalyse, les écrivains Albert Camus, Henry Miller, Jack Kerouac, Artaud, un livre, Le démon de Hubert Selby, un film, Love is the Devil, un texte, Le condamné à mort de Jean Genet, des albums comme Autant d'instantanés de vie et une insoutenable légèreté d'être, Étienne DAO en quelques sons sous la donne. Ceci, signé Anne-Sophie Ladonne.
Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire.
Il y a une part fuyante dans la réalité. Des dépôts fantomatiques. It's just a restless feeling. Parfois, l'ombre d'un homme est plus présente que lui dans la salle où il se trouve.
Je crois que tout ce qui passe dans le royaume de création, appartient aux choses mystiques.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou.
Michel-Ange exténué, j'ai taillé dans la vie. Mais la beauté, Seigneur, toujours je l'ai servi. Mon ventre, mes genoux, mes mains roses des mois.
Chaque homme fait de tout sa peinture. Il n'est pas transformé par la lecture d'un livre, la vue d'un tableau ou par une musique. Il transforme au fur et à mesure tout ça. Et il en fait quelque chose. Il lui convient.
J'ai une perversion de l'esthétisme. Je suis à la recherche de l'esthétisme.
Pour faire ses propres trucs, il y a un moment où on est obligé de penser que c'est bien. Et puis une fois qu'on les a fait, on dit que c'est nul. Puis après, on trouve ça bien.
Bien sûr, je connais tes plaies. tes blessures, cyanure, tes souvenirs ont la peau dure, fêlure, à chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi.
On ne sait jamais par où on est touché, l'endroit vulnérable, oui.
L'artiste, c'est pour te soigner, en fait.
Oui, c'est une thérapie aux frais de tout le monde.
Mais voyez-vous, je suis optimiste de nature. Je suis optimiste, mais pour rien.
Étienne Daou.
Mais que c'est beau, tout ça. Ça m'a beaucoup touché aussi d'entendre Jacques Nau. L'esprit de Jacques Nau. C'est un frère qu'il est toujours là au quotidien pour
il
moi.
Il est toujours là et il a été oui. À vos côtés dès le début. Vous êtes né, un peu grâce à lui, Étienne Daou, sur la scène des Transmusicales à Rennes le 18 décembre 1980. Mais avant ce baptême, il y eut cette rencontre fondatrice en 79 avec les Stinky Toys, le groupe donc de Jacques Nau et d'Eli Medeiros. Étudiant alors en licence d'anglais, vous cassez votre tirelire de pion, disquaire et DJ pour organiser un concert en leur honneur. Concert qui vous laissera sur la paille, mais qui vous ouvrira toutes les portes.
J'ai tout de suite été appelé. Je savais que quelque chose m'attirait vers eux, qu'il y avait des affinités. Et donc, je les ai fait venir à Rennes pour jouer, alors que je n'étais pas du tout organisateur de concert, ni quoi que ce
vous
soit.
Vous avez créé une association.
Oui, juste pour les faire venir. On a fait juste qu'un concert, de toute façon. On a tous cassé notre tirelire d'étudiants et j'ai mis des années à rembourser ce concert. Mais je me suis fait des amis pour la vie ce soir-là. Il y a eu une tempête de neige, donc ils n'ont pas pu rentrer à Paris après le concert. Et ça a été l'éblouissement, mais mutuel. On s'est trouvés. Parce qu'on avait une espèce de biculture qui était la culture du rock, vraiment, avec le Velvet, Bowie, tout ça. Mais on adorait aussi la chanson française, enfin... Françoise Hardy,
oui, oui.
Gros. Et les yéyés, tout ça, on adorait ça. Et il n'y avait pas de gens comme moi autour. C'était très cloisonné, le monde du rock. Donc, assez ennuyeux. Je déteste les cloisons et les tiroirs.
Et les prisons.
Voilà, on a été liés pour la vie et on le sera pour l'éternité.
Vous avez commencé à écrire à l'âge de 14 ans. Mais ce sont eux, finalement, les premiers qui vous ont soufflé dans le dos, encouragé à poursuivre et surtout à interpréter vos textes. De cette rencontre est née la première impulsion.
Ils m'ont dit, fais-le, c'est bien, voilà, c'est tout. C'était tout simple.
Mais ça a été essentiel.
Ça a été essentiel, parce qu'ils comptaient beaucoup pour moi.
Quelle influence ont eu ces post-punks sur vous, notamment sur le premier album Mythomane ?
Je voulais pas faire de rock, en fait. J'étais très méfiant du rock, parce qu'il avait une telle place dans ma vie et dans mon inspiration, que je me suis extrait de ça. Je me suis dit, si je fais pas de rock, si je chante pas en anglais, je suis pas dans un groupe, je vais être obligé d'inventer quelque chose et de trouver... autre chose qu'il y a en moi, avec cette autre culture française. Enfin, il n'y avait pas que Hardy Dutronc, hein, il y avait aussi Brigitte Fontaine, les textes de Bobby Lapointe. Il y avait des gens comme ça qui étaient vraiment comme des lumières. Et donc j'ai essayé de trouver, avec cette voix-là, d'essayer de trouver un chemin.
Et eux ont eu cette influence-là sur vous et sur ce premier album, les Stinky Toys ?
Parce qu'en fait, c'est Jacques Nau qui a produit le disque. Mm-hmm. Et moi, je vivais une histoire torride avec lui. Donc, c'était...
Qui était sa compagne de l'époque, d'ailleurs.
Oui. Bon.
La scène underground des années 80, Taxi Girl, Marquis de Sade, Les Nus, vous ont marqué au fer rouge comme le Velvet, les Stooges, Syd Barrett, les Beach Boys, la Soul ou les années yéyé. C'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher vos influences.
Il faut aller chercher partout. J'ai des coups de foudre musicaux. La musique voilà, me parle, je la ressens dans chacune de mes cellules. Si par exemple on est dans un restaurant et qu'il y a de la musique, je ne peux plus vous écouter. Mon oreille s'en va et mon esprit s'en va. Dès qu'il y a de la musique, je ne suis plus là.
Il paraît que vous en fabriquez aussi en permanence, que vous avez une musique tout le temps dans votre tête.
Oui, c'est fatigant.
Ça ne s'arrête jamais.
Là, je vous parle, donc tout va bien. Oui. Ça s'est arrêté.
Mais dès que j'arrête de parler... Mais dans les moments de
silence ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'invente tout le temps des mélodies. J'en ai tout le temps dans la tête, en permanence.
Mythomane, premier album, se présente comme un album manifeste, avec notamment le single « Il ne dira pas » où tout est dit, déjà.
Oui, c'est absurde, non ? Non, c'est-à-dire que je liste tout ce dont je ne vais pas parler, ce qui est quand même totalement absurde. Et dont j'ai parlé, bien sûr.
Bien sûr, parce que ça a été un catalogue de tout ce que vous ne direz pas, mais que vous finirez par dire au fil des albums, les rencontres, les déceptions, les éblouissements, les gouffres, les secrets, les doutes existentiels, le fracas de l'enfance, les attentats, l'abandon du père, les obsessions, les cris, le sang et les larmes.
Oui, c'est tout, vrai.
Ouais. Cette première chanson était comme un manifeste, vous ne vouliez pas dire.
Oui, c'est drôle, mais je m'en suis pas rendu compte à l'époque. Je l'ai pas écrite en me disant, voilà, je ne dirai pas ça, ça et ça. Il y a une part d'inconscient.
Sûr, oui.
Il y a une part de... J'ai toujours l'impression que je suis un peu sous hypnose quand j'écris. C'est l'autre moi. Mais cette chanson, c'est entièrement l'autre moi. Je me suis rendu compte 10 ans après, peut-être, de ce que voulait dire cette chanson. Et je suis tombé des nues.
Comment ça s'est passé derrière?
Comme beaucoup de chansons, souvent, on réalise ce qu'on a écrit longtemps après. Et il faut aussi se méfier de ce qu'on écrit, parce que ça risque d'arriver.
Les chansons sont prémonitoires?
Ah oui, bien sûr. C'est comme une anticipation. C'est pour ça que c'est du domaine de l'hypnose et d'un certain état de conscience.
Longtemps, on vous a pris pour un lutin twister, ce qui est un énorme malentendu. Votre quête de légèreté semble finalement être en réalité une réponse à la gravité de ces années-là, et notamment à la gravité des années de l'enfance.
Oui, parce que je transportais tout ça, je ne voulais pas jeter ça à la tronche des gens. J'ai réglé ça tout seul avec les années. Il y avait aussi une chose de l'époque qui était que... Il y avait un état d'esprit qui était « montrons la légèreté ».
Les années 80.
Soyons désinvoltes. Soyons hédonistes, amusons-nous, léchons nos plaies dans l'intimité de sa maison et pas aux yeux sous le regard des autres. Ça me convenait très bien, parce que j'avais pas du tout envie de montrer tout ce chaos. C'était assez conflictuel, parce qu'en fait, à la fois, quand on est un enfant, ça acclimate très bien à ce que tout d'un coup, ses parents soient pas là, que ce soit la guerre, d'être en pension. J'étais en pension
à l'âge de 4 ans.
De 4 ans, c'était quand même... J'ai des souvenirs de ça, d'inquiétude, d'angoisse de ne pas trouver ma mère le samedi quand je rentrais en bus, me dire est-ce qu'il y aura quelqu'un. J'avais cette inquiétude, je me souviens de tout ça, mais en même temps, je ne me souviens pas d'avoir vécu toutes ces choses-là comme un moment noir. Au contraire, pour moi, c'est plein de musique, de liberté, il y avait le soleil, j'étais chez mes grands-parents à la plage. Et donc, c'est cet aspect des choses qui a pris le dessus. Le reste était plus difficile, mais m'a construit, et je le savais.
Ça vous a vertébré?
Ah oui, mais je pense que ce sont les moments dramatiques qui vous forment.
Oui, comme ce jour où vous étiez encerclé dans votre maison avec votre mère et vos sœurs et que des locaux ont voulu y mettre le feu. Vous vous souvenez de cette...
Ah oui, bien sûr, j'en ai fait une chanson qui s'appelle « De bien jolies flammes ». C'était un moment de peur. Et puis, comme j'étais le petit garçon de la famille, puisque mon père n'était plus là, je sentais que j'étais un peu le chef de famille et je sentais que je n'avais pas les armes. C'est ce que dit la chanson aussi.
Vous partagez avec l'une de vos muses, Françoise Hardy, cette même pudeur, cette même réticence à se livrer.
Donc vous avez une voix très faible.
C'est pas une affliction, je trouve.
Non, pas du tout. Mais est-ce que c'est une timidité? Ou un snobisme?
Quoi, dans l'intériorisation?
Oui, votre côté intérieur, la femme qu'on n'arrive pas à reconnaître bien. C'est de la timidité ou du snobisme dont vous me répondez?
Non, je crois que c'est justement c'est la conjoncture des astres qui fait ça.
Vous êtes comment dans la vie? Vous êtes dans la vie comme vous êtes dans la chanson, toute douce, toute tranquille?
Je suis absolument déchaînée, oui. Je parle très fort.
Vous parlez très fort?
Je ris encore plus fort que monsieur.
C'est Serge Lama. Serge Lama a un rire violent, oui.
Et puis, je passe mon temps à faire des choses absolument démentes et...
J'ai lu beaucoup de choses
inattendu.
Sur vous.
Nous sommes sur France Inter avec un intranquille, le Dorian Gray de la pop, Étienne Dao, et l'invité de La vie est un jeu. Vous aurez reconnu un extrait de Radioscopie de Jacques Chancel. Cette sommation à se dévoiler, à parler de soi, vous l'avez connu. J'imagine que c'est violent, oppressant, quand on a fait ce métier pour être entendu et non pas pour être vu.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, j'imaginais quand on faisait de la musique, qu'on montait sur scène, qu'on était en studio, qu'on était dans sa chambre à faire des chansons. Et ça, je n'imaginais pas 2 secondes qu'il fallait faire des photos, qu'il fallait aller à la télé, tout ça. Donc ça, ça m'a beaucoup coûté. J'ai mis beaucoup de temps à m'y faire.
On vous associe toujours à Françoise Hardy. Quel a été son apport majeur?
Je me suis reconnu dans ses chansons, dans ce qu'elle disait de l'isolement. Et puis j'étais complètement amoureux de sa beauté.
Vous l'avez rencontré pour la première fois à RMC lors d'une interview?
Je lui ai broyé la main en lui disant bonjour, j'étais tellement impressionné. Je lui ai fracassé la main, je pense.
Et ensuite, vous avez écrit une biographie d'elle.
On s'est rencontrés, on est devenus amis assez rapidement, et une forme d'intimité, véritablement. Même de... Enfin, c'était un peu une famille. Je me souviens avoir passé quand même un Noël avec Jacques, Françoise et Thomas. C'est pas anodin.
Donc vous êtes recréé une famille avec eux?
D'une certaine manière, oui.
Ouais. Ouais. Vous êtes l'un des rares, Étienne Dao, à citer vos sources, à renvoyer l'ascenseur à vos aînés.
C'est très important.
Vous êtes extrêmement minoritaire à le faire, y compris à souligner à quel point tous ces artistes vous ont fécondé. À ce titre, êtes-vous un maillon de la chaîne et donc un passeur?
Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup nourri de mes aînés. Je l'ai dit, redit, ça me paraît important. Il faut renvoyer des fleurs aux gens qui vous ont construit. Et puis maintenant, c'est à mon tour de peut-être nourrir des gens plus jeunes que moi. C'est une suite logique.
D'où vos multiples collaborations avec Françoise Hardy, bien sûr, mais aussi Jacques Dutronc, Jane Birkin, Dany, Debbie Harry, Jacques Naud, Marianne Faithfull, Daniel Darc, Alain Bachung, Brigitte Fontaine, pour ne citer que. Finalement, vous avez fondamentalement l'esprit de famille.
Oui, j'aime rencontrer les autres et j'aime bien fabriquer des choses avec les autres. Quand on rencontre un artiste, qu'on peut faire de mieux, c'est de la musique. Et puis en plus, là, vous venez de citer un tas d'artistes et je me dis waouh! Mais c'est vrai que quand j'avais
et encore, la liste est courte, hein.
15 ans, ouais. J'aurais jamais pu imaginer qu'un jour mon chemin croiserait le leur et qu'on on ferait quelque chose ensemble. C'est miraculeux. Ça m'impressionne moi-même.
Vous avez écrit Mythomane comme une lettre. Vous répétez Élie Médéros, dont vous étiez amoureux, fou. Et tous vos albums sont des déclarations plus ou moins déguisées, des instantanées de vie, d'émotion. Vous êtes finalement votre propre champ d'expérimentation.
C'est une bonne manière de le définir. Oui, je fais des expériences avec moi-même. Des fois, c'est un peu dangereux.
Pourquoi?
Parce que j'ai un goût pour l'intensité.
Et pour l'autodestruction?
J'ai un goût de l'intensité, ça c'est sûr. L'autodestruction, oui, j'ai eu un goût pour ça. Parce qu'il y a un romantisme là-dedans qui me... Plus maintenant, mais qui me plaisait beaucoup. Puis je pense que c'était aussi des choses de ma génération. On avait des héros qui se détruisaient. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était Lou Reed, par exemple. Donc voilà, j'étais complètement amoureux de son travail, de ce qu'il était. Il y avait un côté romantique, comme ça. Mais en même temps, pour avoir connu la guerre et pour savoir ce qu'est la mort, pour avoir flairé son odeur d'assez près.
Vous enjambiez des cadavres quand vous étiez enfant?
Oui, entre autres. Hein, je vais pas tout raconter parce que vraiment, je déteste le côté faire pleurer la France, tout ça. Ça me dérange. Je suis pas à l'aise avec ça. Mais je connais la valeur de la vie. Je suis fasciné par la vie. Donc quand je suis allé trop loin dans l'autodestruction, il y a toujours le côté... amour et fascination de la vie qui m'ont toujours sauvé et où je me suis dit, mais je suis vivant, je fais de la musique, je suis dans la situation la plus merveilleuse, je viens de loin, mais voilà, j'ai accompli quelque chose qui est magnifique. Je vais pas bousiller tout ça.
Mais est-ce que justement ces albums doivent quelque chose à ces voyages, y compris à ces saisons en enfer?
Oh oui, bien sûr, ça ne parle que de ça. Tous les albums parlent de manière un peu pas déguisée. Je trouve que je suis assez limpide pour moi. Hein.
Mais il n'aurait pas cette couleur-là.
Mais je dis ça, mais pour des gens qui m'écoutent, ils pensent que c'est quelque chose de très doux, comme ça, et léger, tout ça. Et très bien, j'adore la légèreté. Je trouve ça tellement dur d'être léger. Là, je suis fasciné par la
travail.
Vie, mais je suis aussi fasciné par la légèreté.
Ouais.
La légèreté, c'est vraiment un boulot.
Vos chansons, semées d'énigmes, Étienne Dao, sont devenues avec le temps de moins en moins cryptées. Vous avez levé des ambiguïtés et quelques tabous familiaux, notamment en 2007, dans votre 9e album, L'Invitation, très nettement autobiographique. L'analyse y est-elle pour quelque chose?
Entre autres, c'est vrai que j'ai commencé un travail avec quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que je ne pouvais plus monter dans l'avion, je n'ai pas pu faire une tournée aux États-Unis. Et donc j'ai été contraint d'affronter les démons au bout d'un moment. On peut se sauver aussi longtemps qu'on veut, s'illusionner soi-même. Au bout d'un moment, j'ai trouvé ça passionnant. Cette espèce de travail à deux, cette espèce de parcours, comme ça, la recherche de soi, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et en plus, quand on fait des chansons, on s'adresse aux autres. Et on ne peut pas leur raconter n'importe quoi tout le temps. On ne peut pas leur injecter des névroses et des zones d'ombre non assumées, non comprises. C'est pas bien. C'est un outil de communiquer avec les autres. J'ai fait vraiment ce métier entre guillemets, parce que c'est plus que ça, c'est ma vie. C'est vraiment une vocation.
Pour communiquer?
Pour communiquer. Et donc l'envie de donner des choses aux autres, j'ai envie de donner le meilleur et des choses qui soient les plus authentiques possibles. Donc débarrasser forcément de toutes les scories qu'on a, toutes les merdes qu'on a dans la tête. Et donc... après avoir réglé ces histoires d'avion, je me suis dit, c'est quand même, je peux vraiment tremper ma plume et faire des albums et des chansons. Et donc voilà, ça a été une motivation pour continuer, uniquement pour les chansons.
Mais d'ailleurs, après l'invitation, vous aviez le sentiment d'avoir poussé tellement loin l'introspection que vous n'étiez pas sûr de pouvoir continuer à écrire.
Il y a eu un espèce d'apaisement, de moment ou de bonheur, en fait, d'une certaine manière. J'ai pas l'habitude, en fait, de ce genre de moment où on est dans une espèce d'état de tranquillité. Je suis plutôt un tranquille. Et j'en ai profité pour faire le condamné à mort.
Qui est d'une gaieté folle, comme chacun sait.
Ah, ça a été un moment de liberté. Et pour vivre à fond cette expérience avec Jeanne Moreau, chanter ce texte fantastique, on ne ressort jamais indemne d'une aventure comme celle-là, et surtout d'une vie de couple avec Jeanne Moreau. On a été très proches.
Fusionnel.
Forcément. Parce qu'on était ensemble sur scène, on avait l'impression d'avoir un drapeau dans les bras, de porter une liberté. Et en fait, je me suis rendu compte que ce texte exprimait tout ce que je dis depuis le début, d'une autre manière, plus légère, évidemment. Ça parle de la passion amoureuse et de la mort inéluctable, de la frustration inéluctable aussi.
C'est la chanson de Jean Génie de Bowie qui vous a amené à ce Tolard magnifique. Vous avez adapté sur scène, vous le disiez, les Alexandrins sont condamnés à mort. Avez-vous écrit pareil après avoir percuté l'œuvre de Genet?
Je pense que le dernier album, je crois, dans le genre pop en tout cas, a été marqué. Je pense à une chanson comme Un nouveau printemps.
Ou Des torrents défendus, est-ce que vous les auriez écrits sans avoir rencontré Genet?
Probablement pas. Donc c'est vrai que ce sont des textes qui sont très enlevés parce que la musique, justement, masque un petit peu ce que ça dit, mais ce sont des textes qu'on peut lire comme ça.
Comme des poèmes.
Comme des poèmes, et ils ont une toute autre signification. Et j'aime bien ça, j'aime bien avoir deux lectures, en fait. J'aime bien qu'on se rende compte des choses après coup.
Puisque tous mes livres ont été écrits en prison, je les ai écrits pour sortir de prison. Sorti de prison, l'écriture n'avait plus de raison d'être. En effet, c'est mes livres qui m'ont fait sortir de tôle. Mais après, quoi dire?
Vous écoutiez Jean Genet, vous êtes très ému, Étienne Dao.
Oui, je suis ému par son authenticité à chaque fois. Et puis par la voix, c'est une voix très française. Il parle d'une manière qu'on ne connaît plus, qu'on n'entend plus. La diction. Et tout ce qu'il dit est toujours très simple. C'est toujours très simple et très profond. J'aime beaucoup le personnage, forcément.
Comme Jean Genet, la dimension érotique est capitale, cruciale chez vous, dans votre œuvre.
Mais c'est la vie, c'est une énergie de vie. Donc dans la vie, il y a forcément la sensualité, le rapport qu'on a avec les autres.
Et la sexualité.
Aussi, bien sûr.
Le sexe a longtemps été plus facile pour vous que les émotions.
Ben oui, c'est tellement facile. C'est beaucoup plus facile. Les émotions, c'est autre chose. Des fois, c'est des espèces de choses qu'on ne comprend pas.
Qui vous submergent.
Des attractions qui peuvent être complètement désastreuses et contre lesquelles on ne peut pas lutter. Le désir, c'est autre chose. Le désir, il est partagé, réalisé, oublié.
À l'instar d'un Bowie, vous êtes une icône gay. Vos pochettes d'albums, ils sont sans doute pour quelque chose, et notamment celle iconique signée Pierre et Gilles en marinière et perruche verte sur l'épaule. Icône gay, c'est une étiquette que vous validez, vous qui détestez les prisons.
Je ne sais pas si je suis que une icône gay, non, je ne pense pas que ce soit que
pas
ça.
Pas que, mais aussi.
Aussi, bien sûr, heureusement. Enfin, c'est, je veux dire, c'est, moi, je veux parler à tout le monde. Mes chansons parlent à tout le monde. Elles ne parlent que de choses universelles qui peuvent toucher tout le monde. Je trouve que c'est très important quand on fait de la chanson de ne pas cloisonner. Je déteste les cloisons et les étiquettes. Je pense qu'on peut être plein de choses. Je pense qu'on peut aimer plein de gens différents. On peut être beaucoup de choses. Et c'est ça la vraie expérience de la vie, c'est qu'on n'est pas une seule personne. On peut se surprendre soi-même, mais aussi peut-être surprendre les autres en étant
Y compris contradictoire.
Imprévisible.
Oui.
Mais oui, il faut être des fois contradictoire.
Parce que vous êtes aussi pudique à la ville qu'impudique à l'écrit. Vous êtes le premier d'ailleurs à le souligner et à en rire. Le paradoxe libère.
Voilà, il faut être un paradoxe. C'est beaucoup plus amusant. Non?
Ah si, bien sûr. Vos textes, en tout cas, parlent pour vous. Ils sont à la fois bisexuels et bitextuels. Je pense notamment à des morceaux...
joli.
Ce qui est vrai, je pense notamment à des morceaux comme Le Grand Sommeil ou La Baie, qui sont à double fond et double sens. Le mode allusif vous est plus commode que le style direct.
Mais ça provoque une ouverture géante. C'est fantastique de ne même pas avoir un genre, même dans ce qu'on évoque. C'est pratique aussi.
Ah oui, c'est très pratique. C'est ce que. Oui. Les chansons de l'innocence
retrouvée. Mais ce n'est pas un masque.
Non, non, je sais bien que ce n'est pas un masque. Mais justement, les chansons de l'innocence retrouvée ont été écrites sous le patronage de William Blake, façon de suggérer, à l'instar du poète anglais, que vous assumez votre dualité.
Mais je suis obligé de l'assumer et de vivre avec. Mmh. Je vais avoir 60 ans, enfin j'espère.
En janvier.
En janvier. C'est pas gagné.
Pourquoi c'est pas gagné?
On ne sait pas, on ne sait pas. Oui, oui. Enfin, je pense qu'il y a des moments où il faut accepter ses propres incohérences. Il faut accepter de ne pas très bien se comprendre parfois.
Finalement, vous donnez l'impression de n'être à l'aise que dans le flou.
Pourtant, j'ai l'impression de...
Mais vous allez voir, une zone qui autorise tout, à la fois une politesse et une liberté.
Oui, si ça, il doit y avoir un flou, c'est un flou d'ouverture, bien entendu. Tout est à bouffer dans cette vie. Et pourquoi s'enfermer soi-même? Souvent, les gens s'auto-enferment dans quelque chose. Alors qu'il y a tellement de choses à découvrir dans cette vie qui est si courte. S'arrêter à des certitudes, c'est une forme de mort qui, moi, m'angoisse. Hein. Donc, c'est vrai que les engagements définitifs m'angoissent parce que ça m'empêche de m'envoler. J'ai besoin de cette sensation... de liberté.
Et de nomadisme.
Oui, j'ai besoin de pouvoir bouger en permanence, de ne pas appartenir à un groupe ou à qui que ce soit.
Ou à une ville. Chacun de vos albums est associé à une ville. L'homme qui marche vient de Rome. On en écoute un extrait.
Piazza Navona, j'étais là très tôt ce matin. Je te cherchais. À vive allure, le passé nous rattrape. Je me demande si j'ai eu raison, mais me voici à Rome. Devant chez toi.
L'escalier monte à sa chambre et dans ce froid de queue, l'enfant du roi fou. En bas de chemise légère, dans son âme, tous nos mystères. L'escalier monte à sa chambre et dans le froid de décembre, son accent français le trahit. En bras de chemise légère, dans ses yeux tous nos mystères de Marseille. Autour d'un ado sombre, accroché au mur devant lui. Est-ce moi? Est-ce lui? Comme le héros d'un livre qui ne souffrirait plus du froid. L'homme qui marche devant moi. Ce râle triste, il était trop tôt pour ma défaite. Je t'ai attendu dans ce râle triste, il était trop tôt pour ma défaite.
La vie est un jeu. Daphné Roulier.
L'homme qui marche, Étienne Dao, et vous marchez beaucoup dans beaucoup de villes. L'invitation est née entre Barcelone et Ibiza. Paris ailleurs a été enregistré à New York. Eden, Résurrection, les chansons de l'innocence retrouvée ont été écrites à Londres. Londres, c'est incontestablement votre ville sanctuaire, une destination Prozac. Vous vous y êtes réfugié à la mort de votre père. Vous y avez fui en 93 après le succès de Paris ailleurs. Vous y étiez aussi quand la rumeur vous donnait pour mort. C'est aussi la ville du Swinging London, du Soho Bohème et Interlope des années 60, du Colony Room, le club où le tout Londres allait s'encanailler, de Francis Bacon à Damien Hirst et Lucian Freud. Une ville où l'excentricité était la règle. Londres vous a beaucoup nourri.
depuis toujours. C'est un coup de foudre que j'ai eu à 14 ans et qui se prolonge. C'est ma relation la plus longue.
C'est votre plus grande fidélité, finalement,
oui.
Londres.
J'ai besoin de cet endroit, parce que d'abord, je me sens très proche du comportement anglo-saxon. Mmh. À savoir la pudeur jusqu'à une certaine heure.
Oui. Et après, on se dessape.
Et après, on est à poil sur la table.
C'est à Londres, on le disait, qu'ont été écrits nombre de vos albums. À Londres, que vous venez régulièrement rôder autour de la maison de Francis Bacon.
Let us say that you have...
Que se passe-t-il quand vous avez un modèle qui pose en face de vous?
Ils m'inhibent. Si je les aime, je ne veux pas pratiquer l'injure, la blessure que je leur inflige dans mon travail.
Pourquoi est-ce une injure?
Parce que les gens croient presque tout le temps que les distorsions que je fais d'eux-mêmes sont une injure envers eux, peu importe ce qu'ils ressentent pour moi ou combien ils m'aiment. Ils réagissent comme ceux qui ne sont pas concernés par l'art et qui pensent que la distorsion est une forme d'injure.
Ne pensez-vous pas que leur instinct est probablement vrai ?
C'est très possible.
Le peintre Francis Bacon, dont l'histoire avec son amant George Dyer vous obsède et a donné lieu d'ailleurs à Bleu Gitane et aux 11 000 Vierges, c'est la question de l'artiste et de sa muse qui vous taraude.
Bien sûr, l'artiste vide de sa substance, la muse. C'est ce qui s'est passé avec George Dyer qui a fini par se suicider. J'ai été obsédé par leur histoire, justement par...
Ils avaient une relation sadomaso.
La relation de l'artiste à la muse me passionne.
Mais qu'est-ce que trahit chez vous cette fascination morbide ?
Mais parce que probablement que je réagis de la même manière. Je vide de leur substance les personnes que j'aime. Voilà.
Vous le pensez sincèrement ?
Oui. Oui. Donc ça me fascine de l'observer chez les autres.
C'est en découvrant le film Love is the Devil.
Il y a eu un silence très glazer là.
Non, c'est un beau silence, un silence lourd de sens.
Il y a beaucoup de choses dans le silence. Les silences sont souvent beaucoup plus
intéressants, oui.
Plus forts que...
C'est d'ailleurs en découvrant le film Love is the Devil de John Maybury, c'était un film qui a été très important pour vous.
J'ai trouvé que c'était un film d'une telle beauté esthétique. Francis Bacon a toujours été un peintre très important pour moi, mais je ne connaissais pas grand-chose de sa vie.
C'est Gainsbourg d'ailleurs qui vous l'a fait découvrir une première fois.
Je l'avais découvert quand j'étais étudiant, parce que j'avais fait des études d'art plastique, et j'avais une fascination pour sa peinture, et je ressens sa peinture physiquement. Et à un moment donné même, il y a une chanson qui s'appelle « Heure hindoue », dont le clip est très inspiré par les peintures de Bacon. J'avais besoin de la proximité de Bacon, j'allais... presque tous les jours devant sa maison.
Oui, quand vous êtes en panne d'aspiration, vous allez rôder autour.
J'avais besoin de cette proximité.
Oui.
Je suis très obsessionnel et parfois j'ai des obsessions. Il y a eu celle-ci pendant cet album, très fortement.
Finalement, ce que vous dites, c'est que comme Bacon, vous exploitez votre désespoir pour le transformer en excitation créatrice.
Oui, mais beaucoup d'artistes font ça. Mmh. Absorbent la vie et le monde et les autres pour en faire quelque chose avec leur sensibilité, pour le retransformer et pour le repartager avec les autres.
C'est à Londres que vous avez appris le 17 juin 1994 que vous étiez mort du sida.
C'est l'année où j'ai le plus travaillé de ma vie, voilà. En plus.
Ça a donné une chanson soudain, l'album Résurrection, qui vous a d'ailleurs hissé au hit parade anglais. Cette mort, on a le sentiment qu'elle vous a permis de faire table rase du passé et de ressusciter. Elle vous a dopé, en quelque sorte.
Oui, c'était tellement absurde. Mais j'avais la chance que ce ne soit pas vrai. Donc je prenais ça avec beaucoup de légèreté. Tant que j'étais loin, j'étais à Londres, c'était une blague pour moi. Ça me faisait rire jusqu'à ce que je rentre en France. Là, c'est devenu d'une lourdeur, parce qu'en fait, tout d'un coup, c'était un fait. C'était complètement incompréhensible.
L'Angleterre...
Enfin, incompréhensible. Oui. Je peux comprendre qu'on ait pu avoir ce genre de fantasme, parce que ma vie, j'étais un candidat parfait pour ça. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Mais à partir du moment où j'ai réapparu, où j'ai dit... c'était difficile de m'exprimer là-dessus. Parce que comme j'avais la chance d'être passé au travers de ça, au travers de toutes ces années folles, qui étaient reproduire la vie de mes héros, en fait, d'adolescence, toutes ces histoires de sexualité, tout ça, c'était Bowie, c'était toute la bande de Warhol et tout ça. Je voulais être comme ça. C'est comme ça que j'ai poussé. Donc
et vous avez vécu comme ça.
C'est ma culture. Donc voilà, c'est normal que je sois devenu comme ça. C'était difficile de s'exprimer, d'exprimer des choses par rapport à des tas d'amis autour de moi qui avaient eu moins de chance que moi. Je ne pouvais pas arriver en disant, voilà, non, moi non. C'est horrible. Enfin, je veux dire, j'étais piégé. Et puis surtout, je voyais pas de quel droit on allait me contraindre à montrer mon bulletin de santé. Ils avaient qu'à aller se faire foutre, tous ces gens-là. Mais ça a duré très longtemps. Voilà.
Vous êtes le rescapé d'une génération, vous l'avez dit, qui s'est perdue dans les excès, celle de Fred Chichin, d'Erita Mitsuko, de Daniel Dark, de Taxi Girl, de Jacques Naud, qui ont tous disparu. Qu'est-ce qui reste de ces années-là en vous?
D'abord, ils restent eux. Ce sont des figures. Je n'ai pas été très proche de la plupart d'entre eux. Enfin, j'ai eu des moments de proximité, de l'affection, de toute façon, d'admiration, avec Fred Chichin, avec Daniel. Jacques Naud, c'est pas pareil. Jacques Naud, c'est mon frère. Donc, voilà. Mais ce que je retiens de ces années-là, c'est qu'on avait envie de faire des belles choses. On n'était pas du tout des hommes d'affaires. On s'est tous fait rouler dans la farine. Mais c'est pas très grave. On était animés par cette envie de faire des belles choses. Donc, voilà, on avait une forme de candeur. On a fait les choses de manière assez, voilà, assez spontanée, assez libre. Et ça reste. Ça s'entend quand on écoute leurs disques. Ou peut-être les miens, je sais pas. Je peux pas moi les juger, mais...
Diriez-vous, Étienne Dao, comme Jean Genet, que l'on ne devient pas un artiste sans qu'un grand malheur s'en soit mêlé?
Oh, mais bien sûr.
Et que chaque homme porte en lui un enfant mort.
Alors, je suis d'accord avec la première partie, qu'on ne devient pas artiste sans qu'un grand malheur soit intervenu. Je ne sais pas comment il le formule, mais on transforme ce chaos. Je pense que tous les artistes, mais beaucoup de gens, parce que tout le monde a un chaos dans sa vie, ce n'est pas le privilège des artistes, tout le monde a un chaos avec lequel il doit s'accommoder, avec lequel il doit faire sa vie. Les artistes ont la chance de pouvoir s'exprimer et d'exprimer ces choses qui sont ressenties par la majorité des gens et qui font qu'on est élu, qu'on devient une voix pour les autres. Donc je pense que les gens qui partagent mon chaos ont considéré que j'étais une voix pour eux et m'ont élu. C'est la raison pour laquelle je suis en face de vous aujourd'hui. Et l'enfant mort, je ne le ressens pas comme ça. Je pense qu'il y a un enfant très vivant au fond de moi. Pas du tout un enfant mort. Je suis un être très vivant. J'ai eu un épisode il y a 2 ans où je suis passé de l'autre côté, très brièvement.
Et vous vous êtes dit que c'est sacrément bien ici.
J'ai une fascination pour la vie, ça m'a sauvé. Ouais. Je ne voulais pas être malade, je ne voulais pas être mort, ce n'est pas une option.
Étienne Dao, je voudrais vous laisser le mot de la fin.
Le mot de la fin?
Oui.
Je vous aime beaucoup. C'était très bon de passer ce moment ensemble. Je suis très impressionné par ce que vous avez capté de moi. Vous m'avez bien compris. Voilà. Et c'est important pour moi d'être bien compris.
Merci Étienne Dao.
Merci à vous.
L'homme qui marche est dans les bacs et l'homme qui chante en librairie, c'est à lire et à entendre, absolument.